C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous, Jean-Marie.
Bonsoir, Roselyne.
Alors, la guerre se durcit et s'amplifie après l'attaque de l'Iran aujourd'hui sur un hôpital israélien. Quant à Donald Trump, il n'a pas encore pris sa décision. Va-t-il ou non s'engager dans ce conflit ? Emmanuel Macron, lui, estime qu'un renversement du régime des Mollahs par les armes n'apporterait que le chaos et met en garde contre une répétition du fiasco irakien en 2003. En France, Bruno Retailleau fait la chasse aux clandestins. 4000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés pour des opérations de contrôle contre l'immigration illégale dans les gares et dans les bus. Et enfin, nous évoquerons le conclave sur les retraites qui joue les prolongations jusqu'à lundi. On en parle avec Catherine Tricot. Bonsoir.
Bonsoir.
Directrice de la revue Regard. Bonsoir à vous, Laurent Geoffrin.
Bonsoir.
Directeur du journal Info. Point Info. Voilà, point info. Et Carole Barjon, vous êtes éditorialiste politique.
À la revue politique et parlementaire.
Donc Emmanuel Macron, lui, est prudent sur le conflit entre l'Iran et Israël. Il met en garde, on l'écoute.
La plus grande des erreurs aujourd'hui, c'est de chercher, par la voie militaire, à faire un changement de régime en Iran. Parce que ce sera là le chaos. Parce que personne ne sait dire ce qui vient après. Et diable, collectivement, nous n'avons pas vu les conséquences que ça avait dans la région ailleurs. Est-ce que quelqu'un pense que ce qui a été fait en 2003 en Irak était une bonne idée ? Est-ce que quelqu'un pense que ce qui a été fait en Libye la décennie précédente était une bonne idée ? Non.
Alors, et diable, a-t-il raison ?
Oui.
Ou tort ?
Alors, c'est compliqué parce qu'on voit bien que beaucoup en France se raccrochent à ce précédent de 2003, qui était en effet une erreur stratégique monstrueuse parce que ça a créé le chaos, à partir d'une doctrine américaine qui était celle des néoconservateurs, qui disait « la situation est chaotique et pour sortir du chaos, il faut en effet éliminer Saddam Hussein et son régime, qui est un régime épouvantable, et à partir de là, on pourra reconstruire un pays ». Et cette reconstruction a pris d'abord la forme d'une destruction en bonne et due forme, et ensuite ça a eu des conséquences de longue portée, notamment sur le terrorisme et sur la naissance des milices terroristes, et ainsi de suite. Donc bon, sauf que tout reposait sur un mensonge, qui était l'idée que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive. Et que là, ça ne repose pas. L'histoire du nucléaire iranien n'est pas un mensonge. Alors il y a une discussion entre le gouvernement américain actuel et ses services de renseignement qui n'accepte pas l'évaluation que fait Israël de la menace nucléaire, enfin de la proximité de l'Iran avec la bombe. Mais néanmoins, les recherches sur la bombe, c'est un objectif affiché de l'Iran depuis toujours. Il y a des installations, il y a vraiment de quoi nourrir l'inquiétude. Et en même temps, avec une doctrine d'un État, au premier rang de sa constitution, c'est la destruction d'Israël. Donc on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Mais c'est vrai que c'est la mise en garde d'Emmanuel Macron vaut d'être écouté, parce que si on accroche à ça la nécessité ou la volonté de changer de régime, on va en effet dans une situation qui va être rapidement incontrôlable.
Laurent, le président français cherche à éviter un possible engagement des États-Unis dans ce conflit, ce qui a valu d'ailleurs un camouflet un peu vexatoire de Trump à propos de Emmanuel Macron. C'est un chic type, mais il ne comprend jamais rien.
Oui. Ça suppose que Trump comprend très bien ce qu'il fait. C'est pas du tout évident.
Je ne sais pas s'il comprend, mais en tout cas, il hésite là.
Ah, oui, il hésite parce qu'il y a une double doctrine dans son camp. Ouais. Il y en a qui pensent qu'il faut être isolationniste, en gros, et d'autres qui pensent qu'il faut intervenir pour faire des changements de régime et promouvoir des régimes libéraux plus proches des Occidentaux. C'est ça l'hésitation. Mais moi, je pense que Macron n'a pas tort. C'est-à-dire que, à cette nuance près, que la comparaison avec l'Irak ne vaut pas, dans la mesure où je ne crois pas qu'ils aient l'intention d'occuper le pays. Personne ne dit « on va aller à Téhéran », alors qu'ils sont allés à Bagdad. Donc c'est quand même très différent. Donc ils vont pas, c'est pas des Américains ni des Israéliens qui vont arriver à Téhéran pour dire « bon, alors maintenant, qui on met au pouvoir ?» Ça va pas se passer comme ça. C'est des bombardements. Alors ils peuvent espérer que les bombardements provoquent un tel affaiblissement, une humiliation du régime, que une partie de la population iranienne se soulève et renverse les Mollahs. Mais encore une fois, Macron n'a pas tort. Ce genre d'opération venue de l'extérieur, c'est ce que disait Robespierre. Une fois, il avait raison. Les peuples n'aiment pas les missionnaires armés. Mmh. C'est vrai.
Ouais. Hein,
nous est de l'extérieur pour mettre en place un régime. Alors ça a marché quand
non,
on a fait...
Non, c'est surtout, est-ce qu'on peut se débarrasser, on doit se débarrasser de l'arme nucléaire avec les armes? C'est ça la question.
Ça, c'est pas exactement la question, parce que non, mais... là, ils veulent se débarrasser des molins.
Mais aussi de la bombe.
Une des branches de l'alternative, c'est de se débarrasser des molins. Oui. Ce qui serait bon débarras entre nous, mais... Ça ne débouche pas forcément sur ce qu'on veut.
Oui.
Quant à se débarrasser de l'arme nucléaire, j'en ai pour une minute, mais c'est un peu plus compliqué que ce que j'entends souvent. Si j'étais israélien de droite ou de gauche, que j'entendais tous les jours venant de Téhéran, il faut détruire Israël, il faut le rayer de la carte, et on va se doter de l'arme nucléaire, ou ils sont en train de se doter de l'arme nucléaire, je me dirais, ça serait pas illogique d'aller quand même
s'en débarrasser
d'une manière ou d'une autre. Là où ça se renverse, c'est que les bombes israéliennes n'atteignent pas les centrifugeuses iraniennes. Par contre, les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie, oui, c'est eux qui ont vu les centrifugeuses, pas les Israéliens. Et donc la négociation sur la base d'un rapport de force avec le régime iranien en disant « Écoutez, maintenant, on va arrêter la guerre, mais vous allez venir négocier et vous allez promettre de ne pas avoir l'arme nucléaire et on va vérifier », ça me paraît une solution meilleure que d'essayer de bombarder indéfiniment pendant des mois ce pays qui va pas se rendre comme ça.
Est-ce que je voulais juste ajouter par rapport à ce qu'a dit Jean-Marie et à la comparaison avec ce qui s'était passé en Irak? Les conséquences désastreuses de ce qui s'est passé en Irak ne sont pas seulement dues aux mensonges dont on se souvient tous sur les armes de destruction massive qui auraient existé, etc., etc. C'est juste l'application d'une sorte de théorème, si je puis dire, de base dans tout conflit, c'est que lorsqu'on veut, là par exemple. S'il s'agit de détruire les infrastructures nucléaires de l'Iran, les Israéliens ont besoin effectivement de cette fameuse bombe BU-57, etc. Bon, mais s'il s'agit de ça, ils peuvent y arriver. En revanche, c'est autre chose de vouloir détruire le régime des mollahs. Ce sont deux objectifs tout à fait différents. Et si on veut, dégager un régime en place, on sait très bien qu'il faut toujours avoir une alternative politique à proposer. Or, là, c'est pas forcément le cas.
Il n'y en avait pas eu non plus en Libye.
Ça n'était pas le cas en Irak et c'est pour ça que ça a foiré.
Ni en Libye d'ailleurs. Catherine, est-ce que quand on veut se débarrasser effectivement de la question que pose Carole, d'un régime ou d'un gouvernement, est-ce qu'il faut derrière avoir proposé une solution politique ou dans le gros, c'est pas nos affaires? On se débarrasse juste des méchants, quoi.
Je pense que si on arrivait dans nos bagages avec une solution politique, elle ne serait pas la bonne. Parce qu'on ne peut pas, ou bien elle existe sur le terrain, mais on ne peut pas l'improviser, l'importer et arriver avec. Or, elle n'existe pas sur le terrain. Moi, j'ai noté dans l'intervention d'Emmanuel Macron qu'il ne faisait pas seulement référence à l'Irak. Il fait aussi référence à la Libye.
À la Libye, oui.
Qui nous concerne un tout petit peu plus. C'est quand même nous qui sommes allés en Libye. On n'est pas allés occuper la Libye, mais on est bien allés bombarder la Libye, ce que fait Israël actuellement. Donc, il n'y a pas simplement une question d'occuper le pays. C'est qu'on peut, par la voie des armes, détruire un pays, le défaire, comme on a défait l'Irak.
Un régime.
Comme on a
la Libye,
un État.
Kadhafi, on l'a retrouvé subclaquant.
On l'a retrouvé, on l'a un tout petit peu subclaqué.
Oui.
Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose que je voulais relever, c'est qu'il y a quand même, il s'est passé un truc un peu extraordinaire dans la prise de position d'Emmanuel Macron, qui a commencé par dire qu'Israël avait le droit de se défendre et qu'on viendrait en appui. C'est-à-dire que c'est tout à fait en rupture avec la tradition de la politique française. La politique française, ce n'est pas de soutenir, et d'ailleurs la déclaration du général de Gaulle en 67 est tout à fait claire sur ce point. Nous ne soutenons pas les pays qui attaquent. On les défend quand ils sont attaqués, mais pas quand ils attaquent. Or, Israël a attaqué l'Iran. Et il a attaqué l'Iran vous dites que l'Iran a l'arme nucléaire. Nous savons que l'Iran n'a pas l'arme nucléaire. Non, mais il ne l'a pas. Donc, il ne l'a pas. Il n'y a pas de justification. Oui, il y avait une négociation. Pardon. Non. Moi, j'estime que ça suffit. Vous pensez que ça ne suffit pas, mais moi, je considère que ça suffit. Il ne l'a pas. Il n'est pas sur le point de l'avoir. Et il y avait une négociation. Pardon, il y avait une négociation. Il y avait une négociation internationale. Il y avait une négociation internationale qui avait déjà eu lieu et qui est en train de repartir. Mais pour l'instant, il ne l'a pas. Là, pour l'instant, c'est Israël qui a attaqué. La guerre préventive...
Répète, quand il l'aura, il sera trop tard.
Non, je regrette. La guerre préventive ne fait pas partie du droit international. Oui, on n'a pas le droit d'attaquer les gens. On n'a pas le droit de mettre les gens en prison avant qu'ils commettent un délit. Et on n'a pas le droit d'attaquer un pays avant que... ce n'est pas... On a le droit d'avoir...
Répondez tous les deux
brièvement. On a le droit d'avoir un principe et on peut aussi se dire que se tenir sur des principes... le fait que la France ne tienne pas ses principes, je pense que ça participe grandement à son affaiblissement.
Non, mais la France tient ses principes.
Alors Jean-Marie,
je rappelle que le précédent épisode dans ce domaine, c'est une attaque en règle de l'Iran contre Israël qui a provoqué une riposte. Et dans cette riposte étaient associées des forces françaises, comme étaient associées des forces britanniques
attaque
et autres américaines.
Oui, L'Iran a attaqué. Là, ce n'est pas le cas.
L'Iran a attaqué Israël.
Là, ce n'est pas le cas.
Pour faire référence à ce que la doctrine que vous disiez, que Macron s'en écartait, il ne s'en écarte pas, ça a toujours été une constante dans la politique française. On peut remonter très loin pour regarder le soutien de la France à Israël, hein, puisque dans l'élaboration de la bombe israélienne, la France y a pris plus que sa part. Donc, c'est une histoire longue, compliquée, mais on n'enfreint pas cette histoire si jamais se portant au secours d'Israël. Et par ailleurs...
Au secours d'Israël quand Israël attaque ?
Oui, mais quand Israël est menacé son existence même par la proximité d'avec une arme nucléaire. Je rappelle que dans ce domaine...
Qui n'existe pas.
Je rappelle que dans ce domaine, les Européens, mais aussi les Russes, mais aussi les Chinois, avaient conclu un accord sur l'arme nucléaire iranienne, que cet accord a été déchiré par Donald Trump au motif que c'était un mauvais accord parce qu'il avait été signé par Obama et qu'ayant déchiré cet accord, il s'est aperçu que c'était une erreur majeure et donc il a ensuite voulu rattraper les choses en remettant tout cela sur la table. Mais c'était trop tard, le mal a été fait, mais cet accord avait existé. Et dans cet accord, il y avait bien la constatation que les Iraniens marchaient vers la bombe et que plus on laisse pas le temps passer, plus ils s'en approchent. Après, c'est une question d'appréciation de vos scientifiques. Il y en a qui vont vous dire qu'ils en ont encore pour 2 ans avant d'arriver à la bombe. D'autres qui vont vous dire « mais non, c'est dans 6 mois, c'est là-dessus que ça se joue ».
Laurent.
Mais ce n'est pas sur des considérations idéologiques.
Laurent, votre réponse.
Je comprends bien l'argument du droit international. Il vaudrait mieux que le droit international soit respecté, bien sûr. Et on aurait un ordre international plus pacifique. Mais il se trouve qu'en l'occurrence, Israël n'est pas dans la légalité en menant une guerre préventive, c'est pas prévu dans les motifs légitimes de la guerre. C'est face à un pays, on oublie quand même de le signaler souvent quand on fait appel au droit international, qui s'est fondé contre le droit international. Premier geste du régime des Mollahs, envahir les ambassades étrangères. C'est un truc qu'on ne fait jamais. Même les pires ennemis laissent les ambassades à peu près en sécurité. Hop, ils l'envahissent et ils prennent 400 otages. Et ils font chanter l'adversaire, les États-Unis, pendant 1 an avec ça. Donc c'est totalement contraire à aux droits des gens et aux droits des nations. Totalement. Ensuite, le même pays favorise, finance, arme, organise les activités du Hamas qui fait des attentats suicides en Israël. Est-ce que c'est conforme au droit international, ça? Quand l'Iran favorise les allées et venues et les agissements du Hezbollah qui fait aussi du terrorisme, est-ce que c'est conforme au droit international? Quand l'Iran favorise les Houthis... Quand l'Iran favorise les Houthis qui balancent des missiles sur la population israélienne, est-ce conforme au droit international? Je n'ai pas terminé. Et quand les Iraniens envoient des salves de missiles par centaines sur Israël, ils ne tombent pas, heureusement, mais enfin, c'est conforme au droit international, ça? Ils viennent de taper sur un hôpital, c'est conforme au droit international? Donc cette référence...
Israël, vous allez pas...
Cette référence au droit international... Est totalement inopérante.
D'accord.
On s'en
affranchit. Allez hop.
Mais quand on est menacé dans son existence. Attendez, je termine.
La France, moi
attendez,
je parle de la France. Je parle
quand
de la
on
France.
Est menacé dans son non. existence.
Je parle de la France.
Quand on est menacé dans son existence, c'est le cas d'Israël, tout cas, c'est comme ça qu'ils le ressentent unanimement. Ce n'est pas le gouvernement de Netanyahou, c'est l'opinion israélienne est unanime sur la
question. Et vous en pensez quoi, vous ?
Eh bien, j'en pense qu'ils sont menacés, effectivement.
D'accord, et que donc ils sont légitimes de faire ce qu'ils ont fait. Vous pensez que c'est légitime ?
Non, je
vous
pense...
Vous pensez que la France est légitime qu'elle les soutienne ? Vous pensez quoi, vous ?
Je pense qu'il est parfaitement légitime que la France les aide à empêcher les missiles iraniens d'arriver
c'est pas
Israël.
Ça, là. C'est pas ça qui a été dit par, par Macron. Pardon.
Oui, c'est déjà, oui,
non. Ce qu'il
ça,
a dit, c'est...
Ça, c'est ce qu'on a fait.
Bon, les amis,
c'est ce qu'on a fait, ça.
Macron, il a dit...
On va refermer le chapitre... Parce que ça peut durer un bon moment.
Mais si on avait enfreint le droit international au moment où l'Allemagne réinvestissait sur la rive gauche du Rhin, il n'y aurait peut-être pas eu ce qui s'est passé après.
Ouais.
Et donc,
Puisque vous parlez de raisonnement politique, je vous en soumettrai un. Puisque hier, à l'Assemblée nationale, la France insoumise s'est déchaînée contre le fait que Emmanuel Macron soutenait Israël, ce à quoi Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a dit qu'il n'en était absolument pas, c'était pas du tout le cas. Alors Jean-Luc Mélenchon écrit dans son blog, hein, quand même... quelque chose qui est assez étonnant. La haine et la peur de l'Iran est l'argument directement tiré du catéchisme islamophobe de Samuel Huntington, le choc des civilisations. Avant le génocide organisé par Netanyahou, cet argumentaire passait mal dans toutes les nations atlantistes. Dorénavant, une solide opinion mondiale est construite qui sait à quoi s'en tenir à propos de l'islamophobie et de la prétendue lutte contre l'antisémitisme des suprématistes qui gouvernent Israël et dirigent les organisations communautaires un peu partout dans le monde, spécialement en France. L'argument de l'Iranien atomique vient compléter la caricature du musulman égorgeur et du violeur OQTF, des esprits faibles comme celui de Bruno Retailleau.
Alors, c'est incroyable, parce que...
Non, mais il faut le lire, le...
Non,
le blog.
Mais...
Mais est-ce que ça a une importance
Attends, alors, Laurent, une minute.
Bah non, mais toutes les accusations...
C'est incroyable, parce que Jean-Luc Mélenchon, il y a 12 ans, disait exactement le contraire. Exactement.
Non, mais...
Et c'est ce que lui a rappelé un journaliste, enfin, pas à lui directement, mais à un député de la France Insoumise, dont j'oublie le nom... C'est ce qu'a rappelé un journaliste, il a posé la question en disant comment vous expliquez ce changement de pied en l'espace de 12 ans et on l'a qualifié de propagandiste sans bien entendu répondre à sa question. Donc voilà, je voulais quand même.
Ouais. Je voudrais avoir votre réaction tous sur cet extrait.
Le problème, c'est que la position de Mélenchon, ça n'a aucun. Ça n'a aucune importance, quoi. C'est pas grave qu'il dise ça. Il dit ce qu'il veut, c'est pas un problème. C'est le moulin de la propagande de la République islamique. Ça, c'est ce que dit.
Bah, ça pose un petit
problème. C'est ce que disent les Russes, c'est ce que disent les Chinois, c'est ce que disent un certain nombre de dictatures qui soutiennent l'Iran, quoi.
Donc quoi, c'est l'ennemi de l'intérieur, alors Mélenchon.
Oui.
Non, il a le droit de dire ce qu'il veut. Il y a une liberté d'expression en France.
Oui.
Il peut dire des bêtises, mais ce n'est pas très grave.
Ça serait bien que, moi, je vais vous dire un truc.
Catherine.
Ça serait bien que sur la question internationale, il n'y ait pas que Donald Trump qui dise tout. Et quand vous dites c'est ce que disent les Russes, c'est ce que disent les Chinois, moi, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres que Trump qui s'occupent des choses.
Le président français, il dit des choses
sensées. Attendez, le président français, si j'ai bien compris, on ne sait pas très bien ce qu'il dit, puisque vous dites qu'il dit une chose, et apparemment, Barrot dit qu'il dit autre chose à l'Assemblée nationale. Et de toute façon, ce que je veux dire, c'est que malheureusement, le président français part aussi probablement ses hésitations dans ses positions, parce que c'est un coup-ci, un coup-là, un coup-li, un coup-là. Il n'a pas beaucoup de poids.
Comme Trump.
Non, oui, Trump, oui, mais sauf que Trump, il est président.
Plus,
oui,
le Mélenchon encore moins. Hein.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça serait bien, parce que considérer que tout le monde est un dictateur, sauf Benjamin Netanyahu et sauf Donald Trump, c'est une analyse que je ne ferai pas mienne.
Alors, quand vous dites ça n'a pas d'importance.
Je peux répondre dessus.
Oui.
Je peux répondre dessus. Ce sont des démocraties qui deviennent illibérales, mais ce n'est pas des dictatures.
Ah bon ?
Mais non. Non.
Bon, écoutez, attendez.
Il y a des.
Ce matin, tout à l'heure,
je vais terminer mon propos.
D'accord, terminez votre propos.
Je vais terminer mon propos. Les vraies dictatures, c'est quand on met plein de gens en prison pour des motifs politiques. Mm-hmm. Alors, Trump ne fait pas ça. Netanyahou non plus. Il y a des choses tout à fait critiquables dans ces deux régimes, évidemment. Et ils suivent une pente dangereuse, ça c'est vrai. Mais on ne peut pas les mettre sur le même plan. que la dictature des mollahs ou le totalitarisme chinois. C'est pas pareil. On est dans la confusion absolue.
Bah, je regrette, je participerai à cette confusion. Bah, pour moi, le régime israélien commet un génocide en ce moment à Gaza.
Non, je suis pas d'accord sur le mot génocide.
Vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, c'est mon analyse. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont en train de détruire de manière systématique.
Mais je suis pas le seul.
Oui, mais c'est pas grave.
Il y a
aussi beaucoup de gens qui pensent qu'en effet, c'est une politique de destruction systématique, non seulement du peuple, mais de ses racines, mais de son histoire, mais de sa culture, mais de toutes ses traces. C'est-à-dire ce que j'appelle un génocide. C'est-à-dire ce n'est pas simplement une tuerie contre les gens, c'est une tuerie contre un peuple et son histoire. C'est ce qu'est en train de faire
le
régime.
Je pense que le mot n'est
pas adéquat. Ben, voilà. Peu importe. Restons-en au fond. Bon. Ce qu'est en train de faire Israël à l'égard des Palestiniens, c'est une destruction non seulement des personnes, mais du peuple et de la culture. Donc, je m'excuse, mais considérer que c'est une démocratie, pour moi, c'est un peu compliqué de l'admettre. Pas. Et considérer que Donald Trump...
Vous diriez vivre en Israël ou en Iran, vous ?
Ni l'un ni l'autre, figurez-vous.
Mais vraiment, si vous aviez le choix entre
mais ni l'un ni l'autre. Mais
non,
ni
non,
l'un
mais
ni
si
l'autre.
Vous le choix.
Mais je ne le ferai
si on vous
pas.
Donnait le choix.
Et je n'irai même pas aux États-Unis, je vais vous dire. D'ailleurs, je vais vous faire une confession.
Vous pouvez pas répondre.
Je pense que je ne pourrais même pas rentrer aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, le New York Times vient de rendre public le fait que toute personne qui aura posté sur ses réseaux sociaux des critiques à l'égard de la politique de Donald Trump n'aura pas de visa pour rentrer aux États-Unis. C'est vrai pour les étudiants, c'est vrai pour les universitaires, c'est vrai pour les intellectuels. Et d'ailleurs, pour Yair Amir Shai, qui est un député français qui devait se rendre aux États-Unis pour la première fois en 250 ans, n'a pas eu son visa pour rentrer aux États-Unis. Un député français. Donc c'est tout à fait scandaleux. Donc je considère que ce n'est
pas. Ça ne suffit pas pour caractériser le régime.
Comment ça ne suffit pas pour...
Alors, on va passer à Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, qui fait, lui, la chasse à l'immigration illégale. Il organise une offensive à l'aide de 4000 gendarmes et policiers et douaniers dans les gares et les bus. Je vous propose de l'écouter.
Le message, le signal, c'est de dire à tous les candidats à cette immigration irrégulière et donc à la fraude, ne venez pas en France. Nous n'accepterons rien. C'est la tolérance zéro, très clairement. Nous avons une stratégie que je poursuis. La stratégie, c'est la reprise du contrôle de nos frontières. J'ai envoyé il y a quelques mois à la Commission européenne la 25e demande depuis les attentats de 2015. La 25e demande de la France pour rétablir les contrôles internes aux frontières.
Voilà, Carole, c'est bon, avec ses bras, là, Bruno Retailleau va courir sur le quai de la gare pour rattraper les clandestins. C'est clairement une opération de communication, ou en tout cas aller flatter l'opinion, mais concrètement...
Tous les ministres de l'Intérieur, enfin beaucoup de ministres de l'Intérieur de droite ont fait ça, et effectivement, il met en scène ou en musique, il illustre sur le terrain, plus exactement, ce qu'il a dit depuis le début. Enfin, il s'est jamais caché de vouloir maîtriser les flux migratoires, de réduire l'immigration irrégulière, et de vouloir chasser effectivement les clandestins et tous ceux qui n'avaient pas vocation à être sur le territoire français. La question pour lui, elle est ensuite, mais c'est très bien, c'est-à-dire que là, il a expliqué qu'il y avait eu 47 000 interpellations de clandestins depuis le début de l'année, je crois. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite ? Puisqu'on sait très bien que ensuite, pour les renvoyer dans leur pays d'origine, là, il y a un énorme problème, comme on l'a vu avec l'Algérie. Donc, il fait... il essaye de montrer ce qu'il fait, mais le problème, c'est la suite. Qu'est-ce qui se passe ? Et il y a un moment où... alors, pour l'instant, les Français sont assez indulgents avec lui, parce qu'il est toujours assez populaire, mais il y a peut-être un moment où on va lui dire les résultats concrets. Où sont-ils ? Et notamment le peuple de droite.
Il veut un bilan, clairement.
Oui, c'est ça, c'est toujours la même équation politique. Il est à la recherche d'essayer de récupérer des voix de l'extrême droite, mais ensuite, il sait qu'il lui faudrait aussi récupérer des voix venant de la Macronie, en gros, puisque la Macronie n'aura plus de candidat ou de champion officiel, en tout cas à la prochaine élection présidentielle. Or, ça, c'est, je ne vois pas comment il va pouvoir récupérer cela. Alors, ceux du Rassemblement national, c'est toujours la même chose. Quand on veut comme ça courir derrière, en règle générale, on favorise le Rassemblement national plutôt que soi-même. Il devrait savoir ça depuis longtemps. Bruno Retailleau, apparemment, il a raté cette analyse-là. Mais bon. Mais ce qui est dramatique, c'est l'image que ça donne. Est-ce que tout ce qu'a à nous offrir Bruno Retailleau, c'est une pâle copie de Donald Trump? Parce que c'est ça qui se passe. C'est ça, c'est cette espèce de démonstration de force où on interpelle des gens. Il y a même des interpellations aux États-Unis. On interpelle les gens dans les tribunaux parce qu'ils vont se faire valider leurs papiers. On les interpelle dans les tribunaux pour les chasser. Donc c'est ça qui est absurde. Et l'image est absolument dévastatrice, je trouve. Et que c'est quand et c'est ça génère vraiment un sentiment de malaise parce que regardez là, peut-être en ce moment ou dans quelques jours, il y aura de gros départs en vacances. Et alors, dans les gares, comme ça, les gens partent en vacances, je ne vais pas dire la fleur au fusil, mais avec un certain bonheur affiché. Et puis, on va être rattrapé par ces scènes où on va choper des gens. Mais on va les choper comment? Au faciès? Parce que vous êtes de couleur, etc. Alors, on va vous un peu comme les Mexicains ou les Latino-Américains sont chassés aux États-Unis. Ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est le tout ce que l'on a à apprendre des États-Unis aujourd'hui, c'est ça? Donc je pense qu'à suivre Bruno Retailleau, la droite va s'égarer s'il continue sur cette voie.
Catherine.
Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Jean-Marie Colombani. J'ajoute que ce n'est pas simplement des images épouvantables qui nous viennent des États-Unis que l'on a l'impression de voir reproduire. Carole, c'est la première fois qu'un ministre de l'Intérieur fait ça. Ça ne s'est jamais fait, de mobiliser 4000 personnes en disant on va mettre dans les gares 4000 personnes pour faire contrôler. Ça ne s'est jamais fait. C'est une première. Ce n'est donc pas dans la tradition. C'est une première qu'il met en scène. Et il met en scène, ça évoque, un, les États-Unis, deux, pardon, excusez-moi, mais ça m'évoque des souvenirs de notre histoire. Pardon, quand on a mobilisé la police française pour aller chercher des étrangers, c'était pas terrible. Et j'aimerais, c'est historiquement daté,
c'est sûr.
Tout à fait, et je n'ai pas envie que l'on juge de cette affaire-là simplement à l'aune de son efficacité. Le problème n'est pas de savoir si c'est efficace ou pas efficace, c'est est-ce que c'est moralement acceptable, est-ce qu'on peut supporter ça, voir ces scènes-là dans notre pays.
Ce matin,
le rédacteur en chef de Regards était à la gare de la Nation au RER, où il y avait une armée de policiers qui arrêtaient les gens, comme vous dites. Pas lui, parce qu'il a l'air d'un bien blanc, bien que, en fait, il soit un tout petit peu basané sur les bords, puisqu'espagnol.
Mais kabyle.
Voilà. Voilà. Donc, je regrette, mais c'est un contrôle aux faciès, c'est une armée qui se déploie, enfin, une armée de policiers qui se déploie. C'est la honte absolue. Et je ne peux pas le supporter.
Et sur le
franchement,
des
c'est la honte.
Est-ce que si on veut maîtriser les flux migratoires, il faut bien contrôler les frontières.
Justement.
Et donc,
Carole,
une gare est un point d'arrivée.
Mot statistique sur ce point. Pour le moment, il y a eu beaucoup plus d'expulsions dans le même laps de temps de la part des gouvernements d'Emmanuel Macron que de la part de ce gouvernement-là. Donc, mais sur la statistique, il y a eu beaucoup d'expulsions. Oui. Et la France expulse régulièrement. Donc, il n'y a pas besoin de faire tout ce cinéma pour mettre en scène cela. Les expulsions étaient plus nombreuses à l'époque des gouvernements Macron qu'elles ne le sont aujourd'hui.
Laurent, est-ce que c'est une mise en scène
C'est une mise en scène.
Une mise en scène.
Elle est choquante.
Choquante.
Bien sûr. Ouais. Choquante. Autant, on est bien obligé de contrôler. Parce que si on contrôle rien, on dit bon, tout le monde vient. Alors, ça va poser un problème. Aucun gouvernement ne fait ça dans le monde, même le plus à gauche. Hein, ça n'existe pas. Et sous la gauche, d'ailleurs, en France, il y avait les socialistes, les communistes et les écologistes qui étaient au pouvoir. Et on expulsait, je crois, 30 000 personnes par an, quand même, c'est pas mal. Enfin, et là, il y en a toujours qui demandent plus, mais enfin, c'est déjà quelque chose. Et sous Macron, c'est un peu la même chose.
Non, mais là, on va aller chercher au petit bonheur.
Mais là, c'est la manière qui compte. C'est est-ce que les droits à respecter? Parce que s'ils sont pris sur la couleur de leur peau, c'est complètement illégal, en fait. On n'a pas le droit de faire ça. Deuxièmement... La manière qui consiste à faire des barrages dans les gares, etc. On a tous vu les films sur l'occupation, enfin pas tous, mais beaucoup quand même de Français connaissent, même ceux qui n'ont pas vécu cette période. Ça fout mal, quoi. Il faut vraiment vouloir marquer l'opinion dans le sens de ce que exige le Front National pour faire ça. Si on est gaulliste, si on est de droite classique républicaine, on ne fait pas ça. Pas bien.
On fait quoi ?
Ben on fait ce qu'on faisait avant.
Ce que font les gouvernements.
C'est déjà pas mal.
Oui. Régulièrement.
C'est régulièrement.
On expulse déjà 30 000 personnes. Alors,
parce que Carole, vous, ça n'a pas l'air de vous choquer.
Surtout, non, puis surtout, on ne s'obsède pas sur.
Je pense que sur l'histoire de l'immigration, tout le monde, enfin, les Français dans les sondages veulent qu'on réduise les flux migratoires. Et qu'en réalité, ce qui se passe toujours, c'est que même ceux qui disent oui, il faut le faire, comme Laurent, par exemple, vient de le faire, on bute toujours sur les questions pratiques. Voilà, ça a été le problème avec Frontex, les gardes-côtes qui sont supposés protéger les frontières de l'Europe, où il y a eu tous ces débats sur le pushback, faut-il
mais
ou pas,
etc.
Non,
de ces questions.
Mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que, oui, enfin, moi j'ai discuté avec le ministre de l'Intérieur de gauche qui disait, il y a un moment, c'est comme ça, si on veut réduire le nombre d'immigrés parce qu'on pense que ça déséquilibre pour partie la société française, quand on n'a plus les moyens de les intégrer correctement, et la question de l'intégration a été absolument nulle depuis 35 ans, ça je suis la première à le dire,
ça
bute toujours aujourd'hui sur la question des moyens pratiques.
Carole, voilà. Ce n'est pas
parce qu'il y a un moment, effectivement, il s'agit d'hommes, donc...
L'intégration, le regard que les Français portent sur les étrangers, les immigrés dans notre pays, qui a été rendu public hier, ne dit pas ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui ne vit pas mal et les Français ne sont pas obsédés par l'idée qu'il faut virer les étrangers, même ceux qui sont en situation illégale. Ce n'est pas vrai. Il y a une partie, il y a le Front National qui le raconte. Il y a le Front National qui le raconte. Mais non, il n'y a pas que le Front National. Non, je suis d'accord, il y a le Front National. Je regrette. Regardez le résultat de la CNCDH.
J'aimerais que ce soit vrai, mais...
Regardez. Non, mais bien sûr, vous avez...
Pourquoi est-ce qu'ils votent pour eux, alors ?
Non, mais attendez, moi, bien sûr, mais vous avez 30% de Français qui votent pour le Front National, donc c'est quand même un léger problème. Mais on n'est pas obligé de l'alimenter, ce problème.
Non, mais les raisons...
Pourquoi est-ce qu'ils votent pour eux ?
Parce que l'explication du malheur du monde donnée par le Front National, c'est que c'est les immigrés.
Mais
parce qu'ils ont donné cette explication-là.
Je sens que vous voulez principaux motifs de vote à l'extrême droite.
Tout le monde oublie la donnée fondamentale de toute immigration, elle est économique. En ce moment, il y a des enquêtes aux États-Unis, notamment du Wall Street Journal, qui n'est pas un journal de gauche, c'est un journal ultra-conservateur, qui montre que du côté des fermiers américains, du côté de ceux qui travaillent dans l'industrie, du côté de tous ces secteurs américains, sont en train de se mobiliser pour que cesse la chasse aux immigrés. Pourquoi ? Parce qu'ils disent on a besoin d'eux, ils sont sérieux, ils sont ponctuels, ils ne protestent pas, et on ne voit pas pourquoi, et nous on a besoin d'eux. Donc voilà. Eh bien en France, il y a la même chose. Regardez chez Mme Meloni, qui est maintenant présentée comme l'archange de toutes les droites, parce qu'elle aurait réussi sur l'immigration. Elle a régularisé 500 000 de personnes. Elle a régularisé 500 000 de personnes à la demande de qui ? À la demande du patronat italien. Voilà, c'est ça le fondement de l'immigration. Et par ailleurs, si vous continuez sur l'Italie est un pays qui se dépeuple. Le problème de l'Italie, c'est pas l'immigration, comme l'a fait croire l'extrême droite, c'est l'émigration. Voilà, et c'est la fuite des cerveaux. Et donc voilà, il faut savoir ce que l'on veut. Et donc l'immigration ne doit pas être l'obsession, l'alpha et l'oméga de toute politique. Elle est un élément qui est évidemment posé sur la table des gouvernements, mais il n'y a pas de raison d'en faire l'obsession et le critère absolu de toute politique pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Et en tout cas, il faut se rappeler une chose forte que tout le monde oublie en ce moment. L'état de droit n'est pas un état de faiblesse. Et tous ceux qui font comme Retailleau pensent que l'état de droit, comme pour les frontières, comme pour la libre circulation des biens et des personnes, il faut s'en débarrasser parce qu'on a besoin de... Voilà. Et donc, c'est de toutes ces questions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui.
Je voudrais qu'on parle d'un dernier sujet, et c'est bientôt la fin, le fameux conclave sur les retraites, où finalement les partenaires sociaux devaient se mettre d'accord les uns avec les autres, mais voilà, le patronat freine un peu des quatre fers, et François Bayrou y croit toujours, lui, en revanche. On écoute.
Et j'ai dit que s'il y avait un accord, il serait soumis au Parlement. S'il n'y a pas d'accord, c'est la réforme telle qu'elle a été adoptée qui s'appliquera. Mon souhait, c'est qu'il y ait un accord. Mon souhait, c'est que s'entendent les partenaires sociaux autour d'un certain nombre de règles et de principes, la principale de ces règles et de ces principes étant le retour à l'équilibre de notre régime de retraite.
Voilà, on a le sentiment que certains, même au sein de l'exécutif, souhaitent le retour de la réforme Borne, en fait, qui n'est pas d'accord.
Ah ben, les gens qui sont uniquement voués à retrouver un équilibre ne veulent pas faire de concessions, c'est sûr, mais ils ont tort. Mm. Ils ont tort parce que ils ont tort sur le principe déjà, parce que on est en train de trouver un système consistant à échanger un âge pivot plus tardif contre des concessions faites
sur la pénibilité des femmes,
pour la carrière des femmes et pour la pénibilité notamment. On a raison. C'est pas normal qu'il soit une espèce de couperet et que tout le monde, quel que soit son itinéraire, se retrouve au même âge, même ceux qui ont des métiers extrêmement pénibles, dont l'espérance de vie est beaucoup plus basse. On le vit toujours, ça. L'espérance de vie des ouvriers ou des employés de certaines catégories est nettement plus basse que les autres. Donc, c'est pas très normal qu'ils aient le même âge pivot. C'est quand même du bon sens, ça. Donc, c'est la philosophie de la discussion qui avait lieu. Moi, je veux bien qu'il n'y ait pas d'accord. Le patronat trouve qu'il vaut mieux, finalement, que ça échoue, parce qu'ils vont rester avec la réforme telle qu'elle est. Et il y a une partie de la droite ou du gouvernement qui pense qu'il vaut mieux rester aux 64 ans que sans discuter.
Donc comment ça va se finir, cette histoire?
Ça fera des économies. Mais ce qui risque de se passer, c'est que les socialistes s'étaient abstenus de voter la censure en échange de cette négociation.
Bien sûr.
Si cette négociation échoue, à cause du patronat, les socialistes sont fondés à dire « Bon, ben, on a raté notre coup, là. On voulait des concessions, on ne les a pas eues. Donc, on va censurer ce gouvernement. » Et alors après, ça dépend du Rassemblement national.
Ouais.
Mais si le Rassemblement national vote, ben, le gouvernement tombe. Voilà, donc, le Bayrou aura fait une opération politique formidable et il aura terminé sa carrière politique. Voilà.
Il vient d'y avoir un vote à l'Assemblée nationale sur une proposition qui était non contraignante, qui a été portée par le groupe communiste, mais qui a été votée par l'ensemble de la gauche et le Rassemblement national pour le retour à la retraite à 62 ans. Ça veut dire que je crois que sur ce point, tout le monde est à peu près uni à l'Assemblée nationale. Tous les groupes de gauche et le Rassemblement national ont voté, et d'ailleurs, elle a été adoptée à la majorité. Elle est non contraignante. Oui. C'est un vœu.
Mais s'il y a un accord entre
donc laissez-moi terminer. Ce que je veux vous dire, c'est que il n'y aura pas probablement d'accord. Et s'il y a un accord à minima, est-ce que les socialistes voudront soit, s'il y a un accord, que ça revienne à l'Assemblée, et si ça revient à l'Assemblée, les députés auront le droit de donner leur avis et notamment de demander le retour à 62 ans. Et s'il n'y a pas d'accord et que ça reste donc la réforme Borne qui s'applique, comme vous venez de l'expliquer, les socialistes se sentiront un tout petit peu grugés, d'autant que ce qui leur avait été dit et ce que donc nous souvenons tous, Bayrou avait annoncé, ça reviendra au Parlement. Donc là, il faut un retour au Parlement. C'est comme ça, c'est sur cette base-là que les socialistes avaient
dit l'accord reviendra au Parlement ou la loi.
Bayrou avait annoncé le retour au Parlement à l'issue du conclave. Ce qui allait, c'était ce
quoi qui se passe ou bien eu,
écoutez l'intervention. De Boris Vallot hier, il rappelle les termes qui avaient été dits. C'était on reviendra au Parlement. Et moi, je m'en souviens, ça reviendrait au Parlement, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'accord. Et s'il n'y a pas... Voilà. Donc,
d'accord, il y a une censure,
et donc, et donc là, moi, je pense que la censure...
Mais alors, quelle devient la réforme Borne, alors
en tout cas,
ce qui est frappant, c'est que voilà un Premier ministre qui joue sa tête à nouveau sur ce sujet. Et ce serait vraiment une particularité de la période que nous vivons. François Bayrou, jusqu'à présent, peut s'enorgueillir d'une non-censure sur son budget.
Ouais.
Et demain, il pourrait s'enorgueillir d'une non-réforme de la réforme des retraites.
C'est avec en plus une censure.
On ne se réjouit plus et on ne s'enorgueillit pas d'une réforme réussie. On s'enorgueillit du fait que on a bloqué le rétropédalage sur cette réforme et qu'on a bloqué le rétropédalage sur le budget. C'est quand même assez triste d'en être là, je trouve.
Contre l'opinion publique.
Mais on sait très bien que sa principale préoccupation, c'est de durer.
Non, mais bien sûr, c'est normal.
Possible.
Ben, c'est normal quand on...
Mais non, mais j'entends bien. Mais du coup...
Peut-être qu'il en a déjà marre, là.
Ça implique de ne pas faire grand-chose, quand même. Hein.
Là, c'est pas faire grand-chose, c'est bloquer une réforme qui n'a jamais été acceptée, oui, ni votée. Enfin, ni acceptée, mais... ni votée.
Elle n'a pas été votée. C'est bloquer le retour en arrière.
Oui, c'est ça.
Non, mais donc, c'est bloquer le retour en arrière. C'est bloquer toute évolution de la réforme.
Pas toute évolution, mais le retour en arrière.
Donc, vous appelez ça retour en arrière. Moi, je trouverais ça un retour en avant.
Je pense que la marche arrière est enclenchée, mais c'est un autre sujet.
Bon, merci.
Moi, je ne crois pas au risque de censure.
À cause du RN ?
Oui.
Bon, on va vite le faire savoir.
Oui, les socialistes ont voté la censure.
On va vite le faire savoir à François Bayrou.
Voilà, on va être mis au courant assez vite, je pense. Ouais. Merci à tous. Vous parliez de la fuite des cerveaux. Eh bien, nous allons quitter ce plateau. Merci à tous.
Pour quelques-uns d'entre nous.
Vous choisirez. Merci à vous tous et merci à Flore Simon et à toute l'équipe technique. À très vite.